Le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On sort de la grève en avançant et en discutant. Voici les mots du Premier ministre Édouard Philippe à l'instant, avant l'ouverture de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux aujourd'hui. Sur la réforme des retraites, il pourrait consentir à organiser une discussion sur le financement du futur système. C'est ce que demandait la CFDT, vous l'entendrez.
Et vous comprendrez aussi pourquoi la CGT, elle, demande aux salariés des raffineries, des dépôts de carburant et des ports pétroliers de se mobiliser à partir d'aujourd'hui.
Charlie, cinq ans après les attentats chez Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, la France se souvient et prépare un procès. Il aura lieu au printemps. En ce 7 janvier 2020, nous ferons le point sur ce rendez-vous attendu.
Les États-Unis n'ont pas l'intention de quitter militairement l'Irak. Rétro-pédalage après une lettre qui disait le contraire, diffusée hier soir. Nous irons à Washington dans un instant.
Et puis nous nous pencherons sur l'offensive du maréchal Haftar en Libye. Il annonce avoir pris le contrôle de Sirte, à l'est de Tripoli. Il ne cédera pas, parle de détermination. La réforme des retraites se fera. À 2 heures de la reprise des négociations sur le futur système, le Premier ministre Édouard Philippe prévient chez nos confrères de RTL, tout en tentant de rassurer. Édouard Philippe veut discuter. Il n'est d'ailleurs pas fermé sur aucune modalité concernant l'âge pivot, voilà ce qu'il a dit. L'âge pivot, c'est la ligne rouge de la CFDT qui proposait avant-hier une conférence sur le financement de cette future réforme. Là-dessus, Édouard Philippe semble d'accord. C'était il y a quelques minutes.
J'ai entendu l'idée d'une conférence sur le financement, qui est au fond un ensemble où on doit réfléchir à justement cette question du financement et de l'équilibre. Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut qu'on en détermine le contenu. Je ferai des propositions aux organisations syndicales dans 2 heures, qui nous permettront peut-être de donner un contenu, un calendrier, un mandat à cette conférence de financement, et donc d'avancer. Et je l'ai dit depuis le début. Je suis ferme sur l'objectif. Nous allons faire un système universel. Et donc, nous allons supprimer les régimes spéciaux. Mais je suis ouvert sur la façon dont on peut y arriver et sur la façon dont on peut garantir les priorités de chacun. C'est ce qui va se passer au cours de la semaine sur la pénibilité, sur les fins de carrière, sur le minimum contributif. Et c'est ce qui peut se passer sur l'équilibre dans le cadre de cette conférence, si nous nous mettons d'accord sur la façon de l'organiser.
Édouard Philippe qui ouvrira la séance de discussion à 9h30 tout à l'heure face aux représentants syndicaux et patronaux au ministère du Travail. Charge ensuite à Muriel Pénicaud au Travail, Agnès Buzyn à la Solidarité, à la Santé, Laurent Pietraszewski aux retraites et Olivier Dussopt à la fonction publique, charge à eux de convaincre les partenaires sociaux. Les réformistes veulent voir disparaître l'âge pivot de la réforme, mais les autres, CGT et FO en tête, demandent le retrait du texte. A priori, il pourrait n'être question aujourd'hui que de pénibilité et de fin de carrière. L'ancien secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, veut mettre en garde ce matin le président de la République.
Si un conflit se termine mal, quand je dis se termine mal, c'est que les gens ont fait grève ou ont manifesté et ils n'obtiennent pas. Il y a toujours un retour. Il y a toujours un effet boomerang. Alors, il se fait pas obligatoirement socialement l'effet boomerang. Parfois, il se fait au moment des élections. Et je pense pas aux élections municipales quand je dis ça. Je pense plus à des élections présidentielles. Et là, je considère que, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, que le président de la République joue gros avec la démocratie. Parce que s'il ne cède sur rien et qu'il passe en force, en plus c'est pas fini le dossier parce que techniquement c'est très compliqué, dans un deuxième tour présidentiel comme on a eu la dernière fois, hein, Macron-Le Pen, il y a beaucoup de gens qui ne voteront pas Macron au deuxième tour, je dis pas qu'ils voteront Le Pen, mais qu'ils s'abstiendront. Mais c'est un risque démocratique qu'il prend et un risque sérieux.
Jean-Claude Mailly au micro de Rosalie Lafarge, reprise des discussions à 9h30 donc au ministère du Travail. Notez qu'après ce journal, Frédéric Saïs nous rejoindra pour le billet politique. Il analysera ce matin le double visage de l'exécutif sur les retraites. Et pendant ce temps, les premières raffineries pourraient être bloquées. C'est sur ce front que se centralise aujourd'hui la contestation contre la réforme des retraites. La CGT Chimie appelle tous les salariés du pétrole à se mettre en grève jusqu'à vendredi. Sur certains sites, des intersyndicales se sont déjà consultées pour se coordonner, tous métiers confondus. Alors peut-on craindre une raréfaction du carburant, Annabelle Grelier ? Avec 8 raffineries et quelques 200 dépôts de carburant, les autorités l'assurent, il n'y aura pas de pénurie. Sans parler des stocks stratégiques, la France a de quoi tenir 90 jours. Des stocks, oui, mais encore faut-il pouvoir y accéder pour ensuite acheminer le carburant au dépôt jusqu'aux stations-service. La grève de 4 jours annoncée par la CGT concerne toute la chaîne, de la production à la distribution, et notamment des ports pétroliers du Havre à Marseille. Avec une mobilisation forte, évidemment, la distribution de carburant peut être perturbée dans certaines zones. Mais c'est plus le phénomène de panique des automobilistes qui viendraient tous faire le plein sur cette période qui entraînerait des situations de pénurie. Pour Thierry Dufresne, délégué CGT chez Total, il s'agit avant tout d'envoyer un message de mobilisation générale aux Français.
Ce n'est pas ce qu'on cherche, la pénurie. Pour l'instant, on cherche surtout à faire un grand moment fort dans le pétrole, parce que ce qu'on a pu voir, c'est que les raffineries depuis le 5 décembre sont parties en grève un peu en ordre dispersé. Donc finalement, les perturbations ont été très localisées, par exemple en région PACA et en région parisienne. Donc on voulait créer ce mouvement de tous ensemble, également montrer à d'autres corps de métier que les raffineurs sont dedans et que seuls les raffineurs, seuls la RATP, seuls la SNCF ne peuvent pas faire reculer le gouvernement. Il faut bien une généralisation de la grève et pour ça, secteur après secteur, il faut afficher sa détermination pour justement faire en sorte que les salariés qui pensent que la grève dans leur entreprise n'a pas d'impact, ça leur montre qu'effectivement il y a un besoin à ce que tout le monde se mette en grève pour que ce soit vraiment flagrant cette démonstration de force et pour faire reculer le gouvernement. C'est le moment ou jamais, il faut y aller désormais dès maintenant.
La CGT qui dit avoir reçu le soutien des Gilets jaunes pour le blocage des dépôts, des blocages que le gouvernement a déjà qualifiés d'illégaux et qui pourraient justifier l'intervention des forces de l'ordre pour les lever.
Et à l'instant d'ailleurs, le Premier ministre Édouard Philippe l'assure, les forces de l'ordre seront effectivement mobilisées pour qu'il n'y ait pas de blocage. Et puisque l'on associe grévistes et Gilets jaunes, notons que tout conflit sociaux confondu, l'année dernière, en 2019, la fréquentation des musées a baissé dans son ensemble. À Paris, le Petit Palais a ainsi enregistré un recul de 50% de sa fréquentation rien qu'au mois de décembre, moins 25% au Grand Palais. Le ministre de la Culture estime qu'elle n'est pas justifiée. Franck Riester demande ainsi à ce que l'allocation annuelle publique dont bénéficie l'écrivain Gabriel Matzneff ne soit pas renouvelée. Gabriel Matzneff fait l'objet, je vous le rappelle, d'une enquête pour viol sur mineur après la publication d'un livre sur sa relation avec Vanessa Springora qui avait alors 14 ans. Un hommage aux victimes aura lieu ce matin rue Nicolas Appert et boulevard Lenoir à Paris. Là où il y a 5 ans, les frères Kouachi avaient abattu 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. 5 ans après, le pays se souvient et le procès approche devant la cour d'assises spéciale Antoine Maret.
Plus de 2 mois d'audience, du 4 mai au 10 juillet, pour un procès historique. Celui des attaques terroristes des 7, 8 et 9 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le supermarché parisien de l'Hypercacher. Des attaques qui ont marqué le début d'une longue vague d'attentats en France, 3 ans après les tueries perpétrées par Mohamed Merah. Plus de 2 mois d'audience, mais sans les auteurs directs de ces attentats. Shérif Kouachi, Saïd Kouachi et Amédi Koulibaly ont été tués lors des assauts des forces de l'ordre à Dammartin-en-Goël et à Paris. Les 14 accusés sont donc soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux tueurs. Le parquet a retenu contre Mohamed Belhoussine et contre Ali Riza Pola les charges les plus lourdes, complicité d'assassinat terroriste. Mais 3 accusés seront très probablement absents de ce procès. Ayad Boumediene, qui était la compagne de Koulibaly, et les frères Mehdi et Mohamed Belhoussine. Ils se sont enfuis dans la zone irako-syrienne quelques jours avant les attaques.
Antoine Maret, qui a d'ailleurs réalisé un grand reportage pour France Culture diffusé vendredi dernier. Il a rencontré anciens et nouveaux dessinateurs chez Charlie Hebdo. Des témoignages à retrouver sur notre site franceculture.fr. Et puis à ce propos, 5 ans après les attentats, nous accueillerons l'ancien président de la République François Hollande après ce journal à 8h20. Il est votre invité, Guillaume.
Mais avant cela, il est 8h09 sur France Culture. Washington a envoyé une lettre évoquant le retrait de troupes en Irak. Et puis finalement, non.
C'est une fausse note notable dans la crise diplomatique entre les États-Unis, l'Iran et l'Irak. Un courrier officiel a été diffusé hier en début de soirée, évoquant effectivement un retrait des troupes américaines d'Irak. Mais quelques heures plus tard, le secrétaire à la défense américain a fait marche arrière. Explication de notre correspondant Grégory Phillips.
Le courrier est daté du 6 janvier. Le commandant des forces américaines en Irak écrit au vice-ministre irakien de la Défense et il lui annonce ceci. « Avec tout le respect que nous devons à la souveraineté de votre pays et comme réclamé par votre Parlement, nous allons repositionner nos troupes dans les prochains jours en vue d'un mouvement de retrait. » La lettre est dans un premier temps authentifiée par plusieurs responsables militaires américains, mais très vite le Pentagone rétropédale. Il n'est pas question de retrait. Les 5200 soldats américains déployés en Irak restent dans le pays, tout comme les quelques centaines de renforts dépêchés sur place pour sécuriser l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Le chef d'état-major américain explique « Oui, c'était un projet de lettre. Oui, le courrier a bien été envoyé à quelques hauts gradés irakiens, mais non, il n'était pas signé et n'aurait jamais dû sortir. » Dans cette affaire, l'administration Trump fait pour le moins preuve d'amateurisme, mais pendant quelques heures, le scénario d'un retrait a paru crédible après le vote du Parlement irakien qui dimanche avait voté l'expulsion des soldats US et après la réplique cinglante de Trump. « Si les Irakiens nous forcent à partir et que ça ne se fait pas de manière amicale », avait prévenu le président américain, « alors nous les frapperons avec des sanctions telles qu'ils n'en ont jamais vu ».
Les quelques 6000 soldats américains restent donc en Irak. Bagdad, où nous étions hier dans ce journal auprès de jeunes Irakiens qui ont fêté la mort du général iranien Soleimani, tué par les Américains. Autre son de cloche ce matin avec des miliciens agissant pour le régime iranien en Irak. Leurs mots, vous allez l'entendre, sont très durs. C'est un reportage d'Omar Waman et Gilles Gallinaro lors d'un hommage aux représentants iraniens.
La mosquée Zouïa, à l'ouest de Bagdad, est bien trop petite pour accueillir cette cérémonie funéraire en hommage aux deux chefs militaires exécutés par l'armée américaine, à qui Hassan, 24 ans, voue une haine féroce.
Si besoin, je le jure au nom de Dieu, je suis prêt à porter une ceinture d'explosifs et à y aller.
Ce jeune vient du quartier déshérité de Sadr City, qui fournit de très nombreux combattants à la milice chiite Hashed al-Shaabi, bras armé de l'Iran.
Ce sont nos martyrs qui nous ont libérés, c'est notre sang versé qui a sauvé l'Irak.
Le sang versé contre les djihadistes, précise Hussein, qui a passé la vingtaine et déjà des années de guerre derrière lui.
J'ai combattu Daesh pendant 4 ans et partout, de Samarra jusqu'à Abu Kamal en Syrie. Contre les djihadistes, c'était clair. Tandis qu'avec les Américains, nous avons affaire à des hypocrites, à des menteurs.
Un ennemi bunkérisé dans la zone verte de Bagdad est constamment harcelé par les miliciens aux ordres de l'Iran.
Omar Waman accompagné de Gilles Gallinaro à Bagdad pour France Culture. Et c'est en hommage au général Soleimani qu'en Iran maintenant, une foule se rassemble en ce moment dans le centre du pays à Kerman où doit être enterré dans la journée Qassem Soleimani. La Turquie est en train de déployer ses troupes en Libye. Le président Recep Tayyip Erdogan veut ainsi barrer la route au maréchal Haftar qui marche vers Tripoli contre le gouvernement d'Union nationale. Le maréchal Haftar qui a signé hier une importante victoire. Il s'est emparé de la ville de Sirte en quelques heures à peine, Maureen Mercier.
C'est une victoire hautement symbolique. Sirte, la ville natale de Muammar Kadhafi, c'est là que l'ex-dictateur a été abattu par ceux qui, en 2011, rêvaient d'un changement de régime. Voir entrer Haftar à Sirte, c'est voir s'effriter nos rêves de démocratie, explique un jeune combattant joint par téléphone. Pour lui, comme pour tant d'autres, Haftar, c'est Kadhafi en pire. J'ai perdu mon meilleur ami qui tentait de défendre la cité, témoigne un jeune infirmier, 22 ans, de la ville voisine de Misrata. Les troupes de Misrata, ce sont les adversaires les plus coriaces que le maréchal Haftar a rencontrés depuis qu'il a lancé en avril dernier son offensive pour s'emparer du pays tout entier. Ce sont elles qui contrôlaient Sirte après l'avoir libéré des mains de l'État islamique. Les troupes de Misrata espèrent désormais voir arriver rapidement les soldats turcs en renfort. Une certitude, le conflit ne peut désormais que s'intensifier. « Je m'étais juré de ne plus reprendre les armes », raconte un jeune prof de français, la trentaine. « Mais je ne peux laisser Haftar l'emporter ». Ce jeune homme, comme tant d'autres de sa génération, s'apprête à affronter une nouvelle guerre, la énième depuis la révolution de 2011.
Maureen Mercier. Quelques heures de répit, quelques heures de pluie, en tout cas en Australie en ce moment, avant la reprise de fortes chaleurs dans les jours qui viennent. Au moins 24 personnes sont mortes depuis le début du mois de septembre à cause des immenses incendies dans le pays. Un demi-milliard d'animaux également, selon une étude de l'Université de Sydney. Hier, de gigantesques fumées ont atteint le Chili et l'Argentine, près de 12 000 km plus loin. Le temps maintenant en France métropolitaine. La pluie va balayer le pays aujourd'hui en son centre, de la Bretagne jusqu'à l'Auvergne. Ailleurs, le temps sera nuageux avec quelques éclaircies par moment. Comptez 3 degrés ce matin à Besançon, 4 à Lyon, 6 degrés à Lille, 10 degrés à La Rochelle et près de la Méditerranée.
Merci.